franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Mais auparavant, en février 1861, le même empereur, plus jeune, Alexandre II, avait donné un espoir à la Russie en abolissant le servage, question que préoccupe depuis longtemps, Hélène Carrère-Dancausse, notre invitée. Bonjour à vous.
Bonjour.
Secrétaire perpétuel de l'Académie française et puis historienne émérite de la Russie. Vous avez publié il y a peu Le Printemps de la Russie. C'est un livre chez Fayard à propos d'Alexandre II. Il faudrait le canoniser, Alexandre II. On canonise souvent les Romanov maintenant.
Oui, ce qui est très curieux, c'est qu'il faut encore maintenant chercher une statue d'Alexandre II. Il y a des statues d'Alexandre III, des statues de tous les souverains. Alexandre II, on trouve péniblement à Saint-Pétersbourg une statue qui est perdue dans le jardin des ingénieurs.
13 mars 1881, encore un anniversaire, cette fois-ci nous sommes à un jour près, l'assassinat d'Alexandre II. C'est sur un site qui est sanctifié maintenant, puisque s'y dresse une église intitulée l'église du sang versé.
Chaque dimanche midi, le tsar se rend au manège Saint-Michel pour assister à la relève de la garde. Il n'y a que deux itinéraires possibles. La petite Sadovaya et le quai du canal Catherine. Cette fois, le tsar ne pourra plus nous échapper.
Je demande à être de ceux que vous désignerez pour cet attentat.
Toi, Vysakov ?
Oui.
Tout s'est passé comme prévu. La calèche apparaît, ralentit, tourne, et c'est à ce moment-là que Rysakov lance sa bombe. Mais la bombe n'a fait qu'endommager la calèche, qui est d'ailleurs toujours conservée dans le musée de Tverskoye Selo. L'empereur est sorti de sa calèche, il est allé voir ce qui s'est passé, malgré l'insistance de sa garde à poursuivre immédiatement son chemin en utilisant par exemple la voiture du chef de la police qui l'accompagnait. On ne saura jamais pourquoi il l'a fait. Peut-être que c'était son destin. Il s'est approché de Rysakov et il a dit « Dieu merci, je suis vivant ». Et Rysakov lui a répondu par la phrase devenue depuis célèbre « Ne vous précipitez pas de remercier Dieu » car il voyait déjà s'approcher le deuxième lanceur de bombes, Grinevitsky.
L'historien Vladimir Guignoff, sur le site du sang versé, avec des vendeurs, comme il y avait un marchand, un jeune gamin, qui portait un panier de viande au moment de cet attentat.
Il y avait, mais en écoutant cela, je voulais tout de même contredire un peu ce récit, en ce sens qu'on sait pourquoi Alexandre II n'est pas parti dans la voiture du chef de la police. Tout simplement parce qu'il a constaté, il a vu qu'il y avait un blessé. Et il s'est précipité, c'était un homme extraordinairement humain, il a voulu se précipiter, on lui a dit, on a essayé de le retenir, et précisément de le faire partir. Il avait déjà, si vous voulez, suivi un autre trajet, parce qu'on lui avait dit que la sécurité imposait cela, et c'est à ce moment-là qu'il a été atteint par la bombe, la seconde, qui l'a déchiqueté complètement. Et c'est quelque chose, c'est une histoire tragique, parce que cet attentat est l'ultime attentat d'une série. Aucun souverain russe n'a jamais été aussi persécuté par les terroristes. Il y a eu des tas d'attentats dans l'histoire russe. Mais en général, on a tenté une fois la vie du souverain, pas 36. Lui, ça a été constant. On a tout essayé. Et les récits, véritablement, des inventions des terroristes qui faisaient tout, qui avaient fait sauter la pièce au-dessus de sa salle à manger, tout s'était effondré sur la famille impériale, qui creusait des tunnels sur son passage. Enfin, il y avait vraiment une inventivité terroriste absolument prodigieuse. Il échappait à tout. On a tiré sur lui à Paris au cours de son voyage. Enfin, tout y est passé. Mais ça a été tout à fait méthodique à partir de 1870. En gros, là, au début, c'était un petit peu fantaisiste. Après, ça a été méthodique. Et en définitive, il a été atteint alors que tout le monde savait que c'était dangereux, qu'on lui avait dit de faire attention. Mais c'est le sentiment humain qui l'a poussé tout de même à s'intéresser à ceux qui pouvaient être atteints.
Le sentiment humain.
Il avait un sentiment humain très
fort. Le gamin, porteur de viande, était à l'agonie quand Absolument. Alexandre II est sorti de sa calèche. Revenons en arrière. Son père, Nicolas Ier, quand il est mort sur un lit de camp de soldat dans son cabinet de travail, 1855, avait fait un geste. Il avait serré le poing devant son fils, le tsarévitch, qui allait accéder au trône.
Et il lui a dit, tiens tout.
Tiens tout. Parce que c'était ça, la Russie, Hélène Carrère-Dancos, une cascade de servitude et d'obéissance. Le tsar, mais aussi bien le barin, le seigneur qui possédait des serfs, la lumière des justes, d'après Henri Troya, un barin.
Je vous le jure, il ne vous restera plus gros comme un œil de peau intact sur le dos. Taisez-vous ! Ce n'est pas bon aussi, taisez-vous ! Sinon je vous ferai fouetter comme les hommes. Allez-vous m'obéir ? Ou êtes-vous vraiment que les ânes pour lesquels il faut se servir de verges ?
Notre petit père, nous ne refusons pas d'obéir. Tu nous as dit d'aller couper des verges. Nous les avons coupées. Elles sont là pour notre punition, petit père bien-aimé.
Voilà, le fouet, la verge, le knout. D'ailleurs, Nicolas Ier avait montré à son fils Alexandre une cérémonie du knout. 500, 1500 coups de fouet pour
oui,
le soldat désobéissant.
Les châtiments corporels étaient, je dirais, tout à fait à l'honneur. En Russie, à une époque où ils avaient été abolis dans toute l'Europe. Il faut bien dire que la Russie avait un retard considérable. Mais je voudrais dire tout de suite qu'Alexandre II avait tout de même été élevé. Son père était, Nicolas Ier, était contradictoire. Il était extraordinairement autoritaire et son dernier message, tiens tout, c'est-à-dire tiens le système tel que je te le lègue, était extrêmement impératif. En même temps, il avait envoyé Alexandre jeune avec celui qui était son précepteur, le grand poète Joukovski, qui était un homme très libéral, visiter toute la Russie. Et Alexandre II avait été conduit par son précepteur auprès des décabristes, c'est-à-dire des insurgés de 1825 qui étaient exilés en Sibérie dans des conditions très difficiles.
Il avait vu la condition. Contre son père, Nicolas
Ier. C'était un jeune homme qui avait été bouleversé par tout ce qu'il avait vu, par le spectacle de la misère russe. Je crois qu'il faut tenir compte de ça. Ce que son maître lui a montré, c'était précisément la condition des paysans, la condition des exilés. Et il était rentré d'ailleurs avec des suppliques innombrables qu'il avait remis à son père.
Il avait promis aux gens.
Le père ne les a pas lus et d'ailleurs il a tourné le dos avec beaucoup de mépris.
Il lit, Alexandre II, il va lire les mémoires d'un chasseur de Tourguenieff. Il connaît aussi le livre de Gogol, Les âmes mortes, 1842. On est encore sous le règne de son père, Nicolas Ier. Une adaptation ici pour la radio de 1947.
Dans une ville de Russie est arrivé un jour un inconnu du nom de Tchitchikov, se disant ancien fonctionnaire. Il a semblé s'intéresser surtout aux grandes propriétés de la région et un matin, il est parti dans sa calèche pour aller rendre visite à ses propriétaires et leur acheter une denrée très bizarre, des paysans morts mais encore inscrits sur les listes de recensement.
Je voudrais te demander un service.
Hein, lequel ?
Tes paysans morts figurent sur la liste de recensement, n'est-ce pas ?
Oui, alors ?
Donne-les-moi.
Les serfs, on les appelle des âmes. Vous nous direz après ce que sont des âmes mortes. Mais...
Attendez, je voudrais préciser une chose. D'abord, les âmes, uniquement les personnes de sexe mâle étaient des âmes. Les femmes et les enfants n'avaient même pas, ne rentraient pas dans cette catégorie. C'est très important, ça. Doucha, c'est la personne de sexe mâle, d'ailleurs, qui, dans les recensements, est recensée. Et les âmes mortes, c'est toute la pensée de Gogol. Et je voudrais souligner pour les auditeurs que si on veut comprendre la Russie millénaire et même la Russie d'aujourd'hui, il faut lire Gogol. C'est l'auteur qui l'explique le mieux. Et précisément, on pouvait vendre ces paysans ne comptaient pas, ces serfs n'avaient pas d'existence réelle. C'était, on pouvait ne pas les compter dans le recensement, donc les trafiquer avec eux, on pouvait tout faire. Et c'est cela le cœur du récit, c'est-à-dire c'est à la fois le mépris pour l'homme, c'est aussi la perversité de la corruption des fonctionnaires et de tout le système.
Oui, mais on pouvait les vendre, mais en même temps, les familles restaient constituées.
Oui, mais elles
on
allaient...
On ne pouvait pas séparer les familles.
Non, mais elles ne comptaient pas. Elles suivaient. Elles ne faisaient pas partie du marché.
Parce que nous sommes...
C'est pas l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs... Il faut toujours comparer Alexandre II et les États-Unis, l'époque de l'abolition de l'esclavage. Tout ça se touche. Il faut bien penser que Lincoln a libéré 4 millions d'esclaves. Et Alexandre II va libérer 20 millions de paysans. Une fois encore, 20 millions d'âmes. Mais il y avait avec les femmes et les enfants, et ça fera 50 millions de paysans qui vont sortir du servage.
Oui, mais les esclaves aux États-Unis sont exclus de la société. Les serfs, l'église, les maris, les familles sont conservées, dites-vous. Tous ne sont pas fixés à leurs terres.
Non, mais dans la société russe, ils étaient fixés. Ils étaient la propriété de leur pays, de leur barine, de ce que l'on a entendu. Et c'était quelque chose d'autant plus, je dirais, choquant durant le règne d'Alexandre II. C'était choquant depuis un siècle. En soi, c'était choquant, mais depuis un siècle, c'était juridiquement tout à fait inacceptable parce que le servage avait été imposé, il s'était développé au XVIe siècle par étapes, mais il avait été imposé, c'était le pendant de l'obligation de service que Pierre le Grand avait imposé à la société aristocratique russe. Alors, l'aristocratie devait le servir, c'était une obligation. En échange, toute la noblesse. Il y avait une noblesse de service, il y avait une noblesse de divers degrés. Et en échange, il recevait des paysans et des terres, avec les terres. Bon, en 1762, juste avant le règne de Catherine II, durant le bref règne de son mari, Pierre III, qui était l'héritier d'Élisabeth Ière, fille de Pierre le Grand, Pierre III, qui a eu un règne court et sans beaucoup d'idées, a aboli l'obligation de service. On n'a jamais su pourquoi, c'est un des mystères de l'histoire. C'est-à-dire les nobles ne sont plus priés de servir, mais ils conservent leurs paysans.
Donc la justification du servage
a disparu complètement. C'est-à-dire qu'il faut un siècle pour qu'on en tire les conséquences. Et ça, c'est très important. Et ça explique Alexandre II, ça explique, je dirais, le développement de l'idée libérale en Russie. Toute une société libérale a réfléchi à ce problème, et notamment le frère d'Alexandre II, son jeune frère, le grand-duc Constantin, et puis, qui était un grand libéral, qui a été ministre de la Marine.
Et puis les intellectuels exilés,
oui,
comme
mais il a, dans sa propre famille, il a eu à ses côtés un homme qui l'a beaucoup poussé et aidé dans son entreprise.
Alors déjà, Alexandre Ier, le tsar qui avait précédé Nicolas Ier, avait songé à l'abolition du servage. Et puis, disait le général Dourakine de la comtesse de Ségur, c'est peut-être pas une bonne source. Il y a un certain nombre de propriétaires qui avaient affranchi aussi leurs serfs. Et Alexandre II va franchir le pas, peu d'années après son accession au trône. Nous sommes en février 1861. C'est un extrait du film de Robert Siodmak de 1959, Katia.
La Majesté, le Tsar.
Asseyez-vous, messieurs.
Messieurs les délégués de la noblesse, l'heure de la réforme est venue. Nous, empereurs de toutes les Russies, proclamons l'abolition du servage. Et accordons aujourd'hui la liberté personnelle à 49 millions de nos sujets.
Je le veux, je l'exige, je l'ordonne.
Vive les Russes !
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et que Dieu protège le tsar, dit l'hymne qu'on vient d'entendre. Et que Dieu protège le tsar, parce que les vannes sont ouvertes, disent les opposants rétrogrades. Donner la liberté aux serfs, c'est comme donner à boire un tonneau d'alcool à quelqu'un qui n'a jamais bu de vin.
Oui, d'autant que ce n'était pas seulement donner la liberté, mais que le problème qui se posait, c'était de savoir ce qu'on donnait avec la liberté. Comment est-ce qu'ils allaient travailler? C'est-à-dire qu'il y avait le problème de la terre. Alors, juste un point important, c'est qu'il a fallu 3 ans pour arriver à cette réforme. 3 ans pendant lesquels le tsar, contre une noblesse extraordinairement opposée à cette transformation, a réuni des commissions, a réuni dans un comité secret tous ceux qui lui étaient proches, et en définitive, même ses proches étaient en général contre, pour aboutir au manifeste du 19 février 1861, qui annonçait précisément l'émancipation des serfs et ce qui avait été le grand sujet de débat pendant 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les libère tout simplement? On leur dit, vous êtes libres, et puis débrouillez-vous. Deuxième hypothèse, est-ce qu'on les libère et on leur donne de la terre? Ou troisième hypothèse, est-ce qu'on leur donne la terre avec véritablement les moyens d'exercer leur activité? La réponse a été une réponse ambiguë, c'est-à-dire On leur a donné la liberté. Ça a été un moment extraordinaire. Là, on a entendu un discours, mais ce qui était beaucoup plus extraordinaire, c'est la lecture de ce manifeste qui accordait la liberté aux paysans, qui a été faite dans les églises ou sur le parvis des églises, avec des paysans qui n'ont pas très bien compris ce qu'on leur disait et qui souvent en ont été effrayés. Mais ce qu'ils disaient, les paysans, là, on est libre, d'accord, mais est-ce qu'on a la terre ?
On leur donne un petit lopin, trop
alors,
petit.
On a fait en trois étapes en plus. C'était très difficile à comprendre pour les paysans. La première étape, c'était une période de transition, c'est-à-dire qu'ils étaient libres. On leur laissait ce qui était leur maison, l'enclos et un petit bout de terre juste attenant. C'est tout. Et ils continuaient à devoir travailler pour à payer des redevances au seigneur et tout cela. Ça a duré 2 ans. Ensuite, il y avait la période où la charte qui était mise en place leur répartissait les terres. Mais cette répartition des terres s'est effectuée, je dirais, en compagnie de la commune rurale, parce que c'est le MIR, la fameuse commune rurale, constitue un des grands problèmes. Les théoriciens de l'émancipation des paysans considéraient que rien n'était plus beau que la commune rurale, le sentiment communautaire. Bakounine l'a écrit. Il disait c'est au sein de ça que les paysans peuvent vivre libres. Les paysans ne voulaient pas du tout de la commune. Or, c'est au sein de la commune que la répartition des terres s'effectuait. Et ça, ça a été, je dirais, un des grands sujets de mécontentement paysan aussi. Mais la charte leur donnait, leur distribuait des terres. Il y avait un accord passé avec le propriétaire, mais ce n'était pas gratuit. C'était ça la grande question. Est-ce qu'on leur donnait gratuitement des terres ou est-ce qu'il fallait payer ? En fait, ils devaient racheter les terres. Et l'État avait mis en place un système de crédit. C'est la dernière étape. Les paysans devaient rembourser en 49 ans. Et le drame a été que, avec les intérêts, les paysans ont remboursé 3 fois. Ce qu'ils avaient emprunté. Donc, vous imaginez le mécontentement paysan.
Certains se sont enrichis, beaucoup se sont appauvris. La misère paysanne est restée. Simplement, on a quand même l'impression qu'après, la question paysanne occupe moins les esprits, occupe moins l'opposition. Parce que c'est en ville que se joue l'essentiel, dorénavant, en Russie.
Oui, et pour beaucoup de raisons. La première, c'est que la paysannerie est émancipée. Vous ne pouvez pas continuer à parler du problème. Ça devient un problème technique de régler la question des terres. Le deuxième problème, c'est que beaucoup de paysans ont eu du mal à rembourser les terres, du mal à vivre, souvent leur lopin. Alors en plus, c'était mal fait parce qu'on n'a pas fait ça d'une façon rationnelle. Les terres ont été distribuées, souvent séparées des bois, séparées d'autres lopins de terre. En d'autres termes, pour arriver à rembourser et à vivre, c'était très difficile pour eux. Donc il y a eu un certain exode paysan vers la ville. Et ça explique à la fois qu'on s'intéresse moins à la question paysanne et que l'attention se tourne vers la ville parce que se crée à ce moment-là un immense prolétariat tout à fait nouveau qui va très vite. C'eût été, je dirais, une prolétarisation progressive et une urbanisation progressive. Les paysans auraient trouvé place à la ville relativement facilement. Mais en même temps, commence à s'opérer un développement industriel. Les paysans ne trouvent pas tout de suite de l'emploi. Les conditions d'accès dans les villes et d'installation dans les villes sont très difficiles. Donc il y a un prolétariat mécontent qui va grandir.
Et prolétariat mécontent dont les terroristes dont nous parlions tout à l'heure vont se prétendre les représentants. Porte-parole. Nous sommes en 1866 maintenant, l'abolition c'était 61. Les choses vont très vite parce que c'est en 66 que commence la série d'attentats.
Грабят все наш тут, бояре стольный град отдали в плен панам.
Больше смерти тех
хочет враг навеки Русь заполонить.
Русь заполонить.
Силы есть у нас, да кто их соберет? Нет ратных воевод. Кто Русь оборонит?
L'accélération de la situation russe avec vous, Hélène Carrère-Dancos, nous sommes au milieu des années 1860. 15 ans avant, le petit père des peuples était intouchable, ou s'il risquait le tsar d'être assassiné, c'était par quelqu'un de sa famille. Là,
ça
on cherche à viser.
Et il y a une raison qu'il faut, que, il faut bien la comprendre. L'homme. Pourquoi est-ce que c'est devenu possible? C'est devenu possible parce que les premières réformes qu'a faites Alexandre II, dès que son père a été mort, son premier train de réforme, ça a été une libéralisation de la vie, je dirais, de la vie politique. On peut appeler ça comme ça. Il a fait revenir, il a amnistié les exilés, qui étaient tout de même des révolutionnaires, hein, des aspirants révolutionnaires. Pas de la même espèce que ceux qu'on va voir dans les années 1860, mais tout de même, ils avaient pensé, c'était les décabristes, tout cela, et déjà des gens qui s'intéressaient trop à la vie politique du point de vue du pouvoir. Bon, ils ont été amnistiés. Les universités ont eu une liberté d'exercice qu'elles n'avaient pas. La liberté de la presse, des moyens de communication de l'époque, a été accordée. Donc, si vous voulez, il y a une vie politique, une réflexion politique qui peut s'organiser, qui était impossible 15 ans auparavant. C'est ça qui explique l'accélération de tout le mouvement révolutionnaire avec de nouvelles conditions sociales.
Des jeunes qui n'avaient pas connu la parole bridée comme au temps de Nicolas Ier. Le premier attentat, 1866, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? C'est un extrait d'une vie pour le tsar, de Glinka. Alors, quand a lieu le premier attentat ? C'est quand même une très grande surprise.
C'est une grande surprise.
On donne une représentation à l'opéra. Voilà.
C'est la première fois qu'un sujet du tsar attente à la vie du souverain. Avant, c'était des régicides. Ça se passait sur le plan politique. Et je dois dire que l'explication qu'on a recherchée, on a dit c'est un Polonais. Car les Polonais étaient impopulaires. Et on a tout de suite accusé celui qui avait attenté à la vie du tsar. Les premiers attentats, on accusera toujours les Polonais. C'était les victimes des partages de la Pologne. Ils étaient tout de même, ils étaient catholiques, ce qui n'était pas la religion de l'État, et ils vivaient en dehors de tout. Mais je voudrais ajouter que là aussi, dans les réformes d'Alexandre II, et ce qui explique les Polonais aussi entrent en scène, c'est qu'on a libéralisé les rapports avec les minorités, notamment avec les Polonais, les rapports avec les églises, notamment avec l'église catholique, et avec les divers peuples minoritaires. Donc tout cela change l'atmosphère du pays et crée une sorte d'opposition qui commence à se structurer.
Mais en 1966, ce n'est pas un Polonais.
Non, il absolument y a pas, mais on a commencé par accuser un Polonais.
Un Russe, un autre Russe qui s'appelle Komissarov, qui se porte au secours du tsar. Et au moment de la représentation d'une vie pour le tsar de Glinka, on met Komissarov dans la loge à côté de l'empereur. L'émotion est extrême. Et puis, deuxième, troisième, quatrième, cinquième attentat, vous avez dit, dans les trains, en calèche, l'empereur ne peut plus se promener à pied, le palais d'hiver.
Va en Crimée. Le train, sur le passage du train, il y a des bombes.
Le palais d'hiver lui-même est touché. Alors, quand on entend les cloches à la volée qui indiquent que le tsar a été sauvé, il y a une plaisanterie qui court, les concierges disent, tiens, encore manqué. Ouais.
Tout à fait. Et c'est ce qui explique d'ailleurs un certain sang-froid du tsar. Progressivement, il a eu le sentiment, il a été, quand on lit les documents, quand on lit sa correspondance, au début, il a été accablé par le sentiment justement que ses compatriotes voulaient le tuer. Et puis après, il a eu l'impression qu'il y avait une protection divine sur lui. Et dans les dernières années, et si le dernier attentat était possible, il agissait très imprudemment. C'est-à-dire qu'il avait tout de même, vous avez évoqué Katia au début, il y avait dans sa vie la femme qui a occupé véritablement toute la dernière période de sa vie, qui a été la compagne et la mère de ses enfants.
Et Katerina.
Exactement, Dolgoruki. Et imprudemment, il allait la rejoindre. À la fin, il l'avait installée dans le palais parce que c'était trop dangereux. Mais il allait la rejoindre dans les jardins du palais et c'était un lieu d'attentat aussi.
Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là ? Il avait peut-être été un peu indécis après l'abolition du servage. Il décide, dans la dernière ligne droite, dans les toutes dernières années, d'accélérer jusqu'à imaginer un projet de constitution dont le film Katia que vous évoquiez, Hélène Carrère-Dancos, reprend les termes. Le film date de 1959.
Ah, Majesté, je craignais d'arriver trop tard.
Au moment où j'allais partir, on m'a apporté ces épreuves d'imprimerie. Je n'ai pu résister au plaisir de les examiner.
La constitution ?
Oui. Les guerres, qu'on les perde ou qu'on les gagne, feront toujours le malheur du peuple. Mais avec ça, au moins, je suis sûr que j'aurais fait quelque chose pour lui. Mon passage sur Terre n'aura pas été inutile.
Nous admirons tous votre générosité, mais elle met en péril les bases mêmes du régime. Une constitution en vaut une autre, mais celle-ci va ruiner des intérêts immenses. D'où le danger d'une trop grande précipitation.
Quel danger ? Les terroristes étaient à craindre. Vous m'avez préservé d'eux. Vous me garderez bien contre les gens de la cour.
Leur passe, et votre majesté est attendue.
Votre majesté est attendue, dit le chef de la police secrète. C'était quoi ce projet de constitution ?
Alors c'était un projet de réforme constitutionnelle qui au fond aurait créé progressivement une monarchie constitutionnelle. C'était ça qui était extrêmement important. Ce n'était pas exactement une constitution. C'était un texte qui modifiait les institutions, qui était très important parce que utile était appliqué qu'incontestablement, on ne peut pas dire la révolution de 1917 n'aurait pas eu lieu, mais c'est très plausible. Or, pourquoi n'a-t-il pas été appliqué ? Car avant de partir, il allait, Alexandre II voulait aller à la parade, comme il allait tous les dimanches, et passer ses troupes en revue, et il avait signé ce texte. Le texte était signé. Katia, d'ailleurs, lui avait supplié de ne pas y aller. Et quand on l'a rapporté, sanguinolant, la tête à moitié arrachée, enfin non, les membres dans un état, il était déchiqueté. Son fils, qui sera son héritier, Alexandre III, et, ce qui est très important, celui qui sera le dernier tsar de Russie, son petit-fils Nicolas, ont été à son chevet, ils ont vu ce spectacle épouvantable, et au fond, c'est imprimé en eux l'idée, voilà les réformes, voilà ce que c'est qu'une constitution. Et immédiatement, Alexandre III, qui devient souverain à la mort de son père, a eu un moment de doute. Il était sous l'autorité de son gouverneur, Pobedonovtsev, qui était un homme terrible, très, très, très dur. Il a décidé, bien qu'il aimait son père, de déchirer ce texte. Et c'est cela qui explique. Au fond, il a eu un moment l'idée qu'il fallait se soumettre à son père. Et le spectacle qu'il avait vu, il a considéré que c'était la réforme politique conduisait à l'assassinat du souverain. Il a choisi une autre voie, mais il faut le dire. Il a choisi la voie de la transformation économique la voie politique.
Alexandre III, quand même, acceptait l'abolition du servage que son père avait signé en 1861.
Juste, on ne pouvait pas la remettre en question.
Hein. Puisque vous parliez d'humanité au début de cette émission consacrée au printemps de la Russie, Alexandre II, c'est le titre de votre livre chez Fayard, Hélène Carrère-Dancos, le dernier geste du tsar avait été de se porter vers Rissakov, son assassin, et Rissakov, entre le moment de l'assassinat et son exécution, a opéré une ébauche de démarche de conversion.
Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, le courage. Mais je ne suis pas si grand, je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Mais j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine.
Qui a dû informer Albert Camus quand il a rédigé
les Justes.
Ces terroristes, c'était les serfs aussi. Il y avait au cœur de l'organisation des gens qui décidaient pour les acteurs de seconde catégorie qui posaient les bombes.
Quand on lit Dostoïevski dans les démons qu'on appelle les possédés par une mauvaise traduction, dans les démons on voit très bien ce qu'était l'organisation de ces terroristes. C'était une organisation hiérarchisée où véritablement chacun était soumis à l'autorité supérieure. C'est l'organisation des bolcheviks telle que Lénine l'avait inventée.
Le servage n'est donc pas totalement aboli. Camille Poux, Jalaguier, Franck Olivard, Frédéric Martin, c'est l'équipe de La Marche de l'Histoire avec Alexis Patovstev. Aujourd'hui, à la réalisation, Jacques Sigal, à la technique, Pascal Baldassari et Guillaume Roux. Nous ne serons pas très loin de notre sujet d'aujourd'hui. On parlera encore esclavage et travail forcé, puisque le thème de La Marche de l'Histoire mardi sera le sucre.